Jean Charest traitant de commerce et de tensions mondiales. Qui de mieux pour présenter le conférencier que le président directeur général du groupe export agroalimentaire, Martin Lavoie?
Depuis toujours, les tensions et l'environnement commercial ont joué un rôle majeur dans le flux des exportations de porc canadien. Plus récemment, nous avons pu constater l'importance de l'impact financier sur les entreprises du secteur dans la situation liée à l'accès du porc canadien à la Chine. J'ai d'ailleurs été directement impliqué dans la gestion de cette crise dans mes anciennes fonctions de président directeur général de Canada Port International. Les exportations bioalimentaires au Québec, c'est plus de 9 milliards d'exportations par année à l'international et un nombre tout aussi important d'exportations dans le reste du Canada. Le fait que le porc soit en toute première place en termes de vente internationale des produits bioalimentaires du Québec fait en sorte que le groupe export surveille de près la situation. Le Québec occupe une place très importante sur l'échiquier des exportations canadiennes et nous entendons bien faire tout ce qui est en notre pouvoir pour accroître cette position ainsi que le maillage avec l'industrie québécoise du porc. Dans un contexte mondial en constante évolution, que nous réservent les prochaines années? Comment pourrons-nous tirer parti des grandes tendances mondiales? Nous sommes certainement fort intéressés à entendre l'avis de notre prochain conférencier, l'honorable Jean Charest. En tant que conseiller stratégique possédant une perspective unique, il accompagne ses clients sur des transactions complexes, des projets et des mandats internationaux, tout en naviguant dans l'environnement commercial mondial. Sa conférence s'intitule « Tendances mondiales et implications géopolitiques des tensions commerciales ». L'honorable Jean Charest.
Jean Charest constate que l'économie mondiale est sortie de sa longue période de forte croissance. Il y a ralentissement évident et le pas est de moins en moins grand à franchir pour que l'on se retrouve en récession.
Depuis 1987 jusqu'en 2008, jusqu'à la crise financière et économique, la croissance du commerce dans le monde a été au-delà de 7 % par année et ça a presque été le double de la croissance du PIB mondial. En autre mot, ça a été une locomotive de prospérité économique sur la planète qui a sorti des centaines de millions de personnes de la pauvreté, qui nous a permis, ici au Canada en particulier, puis au Québec, puis dans votre secteur à vous, d'entrer dans des nouveaux marchés, de créer de l'emploi, puis de créer de la prospérité. Croissance qui est plus forte que le PIB, ça, c'est de la création de richesses. Ça veut dire quoi, ça, quand vous êtes dans un secteur comme ça? Ça veut dire que vous allez vraiment créer de la richesse, créer quelque chose de nouveau. Et ça a été l'histoire, ça, la ligne à part de 2007 jusqu'à 2008, ça a été une histoire unique dans l'histoire de l'humanité. Et ça a permis de créer une richesse exceptionnelle. Maintenant, cette ligne-là a cassé en 2008. Et là, il y a eu une reprise, mais la reprise depuis ce temps-là a à nouveau été cassée parce qu'il y a une guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, mais pas uniquement entre les États-Unis et la Chine, c'est les États-Unis sur l'Europe, les États-Unis sur Argentine, Brésil, les États-Unis qui ont remis en question l'ALENA. Évidemment, Trump est au milieu de ça, puis c'est pas uniquement les États-Unis. Après ça, les autres pays entrent dans le jeu. Et on vit actuellement une période de protectionnisme. D'ailleurs, on parle beaucoup d'accords de libre-échange, mais si on voulait s'en tenir aux vraies définitions de ce qui se fait en ce moment, c'est des accords qui viennent cadrer les échanges commerciaux. C'est pas vraiment du libre-échange. Si vous regardez la nouvelle version de l'ALENA, quand on vient dire qu'il y aura un minimum de contenu canadien ou nord-américain pour les voitures ou autre chose, on vient réglementer le commerce. C'est pas le libre-échange au grand sens du terme. Mais c'est quand même très important parce que pour le Canada, il y a une question d'accès au marché. Maintenant, parce que c'est l'histoire de notre économie dans le monde, il y a un ralentissement marqué de l'investissement. L'investissement étranger baisse beaucoup et ça, c'est dû à l'incertitude liée directement aux échanges économiques, aux échanges et à l'incertitude qui entoure les pressions que fait Trump sur tout le monde. Et ça, ça va se répercuter. Il y a un effet de domino. Si on réduit l'investissement, on réduit l'emploi éventuellement, puis ça va, à un moment donné, là, se refléter dans l'économie. Alors, on ne le sent pas immédiatement. Au Canada, on a commencé à le sentir parce qu'aux États-Unis, aujourd'hui, les consommateurs sont porteurs de l'économie. La socle de croissance de l'économie américaine aujourd'hui, là, c'est les consommateurs. Mais le secteur manufacturier est en déclin et l'investissement est en déclin et le niveau d'endettement des entreprises est à la hausse. Alors, le portrait est beaucoup plus nuancé que ce que les titres de journaux nous laissent entendre.
Et l'ancien premier ministre du Québec, dans l'entrevue qu'il m'accordait par la suite, affirmait à son tour que le Canada est coincé entre Pékin et Washington. Et cela en grande partie à cause de Donald Trump, le président américain. Monsieur Jean Charest, bonjour.
Bonjour, Monsieur Levac.
Monsieur Charest, le contexte économique mondial, contexte commercial mondial, libéralisation, multilatéralisme de plus en plus. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de réinstaller un nouveau système de contrôle et de restriction du commerce à bien des niveaux?
La réponse la plus courte serait oui. Il y a eu des effets à la mondialisation. Et il y a beaucoup de populations, il y a beaucoup de gens de pays qui contestent les effets. Ils ont eu des effets bénéfiques. En particulier, il y a eu un phénomène vraiment historique, c'est-à-dire des centaines de millions de personnes sont sorties de la pauvreté parce qu'on a été capable d'accroître les échanges économiques et les échanges commerciaux. Mais il y a eu des laissés pour compte dans les pays développés comme dans les pays en voie de développement. Et ça, ça a laissé des traces. Et aujourd'hui, la nouvelle vague d'accords qui sont négociés tiennent compte de ce phénomène-là. Donc, c'est moins du libre-échange que du commerce qui est réglementé, encadré, qui cherche à protéger les emplois et qui se reflète dans le nouvel ALENA où on dit, bien, dorénavant, au Mexique, là, on veut qu'un pourcentage des travailleurs puisse bénéficier d'un salaire de 15 ou 16 $ de l'heure, comme c'est le cas chez nous ou dans d'autres entreprises. Alors, l'environnement, l'autre exemple le plus récent, là, c'est le gouvernement français qui dit à la Commission européenne qui conclut un accord de libre-échange avec le Mercosur que si le Brésil ne change pas ses politiques par rapport à la forêt amazonienne, qui ne vont pas signer l'accord de libre-échange. Alors, vous voyez, c'est lié à l'environnement.
Et il y a aussi le poids des différents partenaires dans des ententes. L'Europe ne cède pas sur ses réglementations, par exemple, phytosanitaires. Le Canada ne cède pas non plus. Donc, on doit manœuvrer à travers, malgré des accords d'ouverture, on doit manœuvrer à travers toutes sortes de contraintes.
Ça, c'est la nouvelle génération des accords qui nous amène à un autre niveau. La génération précédente avait pour but surtout d'effacer les tarifs, qui étaient la première barrière à l'entrée, mais là, on a poussé plus loin. On a creusé davantage. L'accord Canada-Europe en témoigne très bien pour dire, là, on ne va pas uniquement aller sur les tarifs, mais sur les règles, les normes, les règles phytosanitaires, puis on va chercher à les harmoniser pour qu'on puisse favoriser le commerce. Il y a des pays qui profitent de ça et de leur pouvoir souverain pour dire, non, non, nous, on impose des règles, sachant à l'avance qu'elles ne sont pas acceptables pour l'autre pays. Ça va faire partie de l'évolution, mais on avance là-dessus parce qu'on est bien capable de trouver des règles communes qui sont à la satisfaction des populations tout en respectant la santé des gens.
Il y a un glissement de l'économie et du contrôle de l'économie vers l'Est. La Chine, tout particulièrement, la Chine qui va devenir une superpuissance, oui.
Et ça, c'est, honnêtement, c'est phénoménal. Dans notre vie à nous, dans l'espace de votre vie et de la mienne, M. Levac, on voit émerger devant nos yeux une superpuissance, la Chine. Et les superpuissances, on connaît ça au Canada parce qu'on est voisins, nous, d'une superpuissance. Puis des superpuissances, ça agit comme des superpuissances. Quand ils ont des obstacles devant elles ont le mauvais réflexe de les tasser, hein, parce qu'ils sont imbus de pouvoir. Alors, il faut constamment les ramener dans le chemin du multilatéralisme, créer un environnement où il y a des règles communes, à défaut de quoi ils s'imposent leurs lois. Et associé à l'émergence de la Chine, c'est toute l'économie mondiale qui va connaître la plus forte croissance en Asie. C'est là où les nouveaux marchés vont s'ouvrir, où les occasions d'affaires. Et pour le secteur agroalimentaire, ça, c'est une des grandes réalités, c'est de pouvoir avoir accès à ces marchés-là à des conditions acceptables.
Et déjà, on voit que le Canada, et est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je vais dire, le Canada est coincé entre les États-Unis et la Chine.
nous sommes coincés. Et malheureusement, pour le Canada, dans l'épisode de Huawei en particulier, M. Trump instrumentalise en quelque sorte le Canada. Le Canada a toujours eu une politique indépendante, souveraine vis-à-vis la Chine. M. Trudeau père avait reconnu la Chine il y a exactement 50 ans, bien avant les Américains. On envoyait, nous, des produits agroalimentaires, on envoyait du blé en Chine pendant les périodes à la fin des années 50, pendant les périodes de famine, alors que d'autres pays refusaient de transiger avec eux. Et là, on est pris à l'étau. M. Trump, après l'arrestation de Mme Meng, fait un tweet où il dit « Moi, je suis prêt à libérer si j'obtiens mon accord commercial. » Honnêtement, là, ça nous laisse dans une position intenable. Mais voilà, dans le cas de Huawei, de Mme Meng, la démarche, elle est entamée. Et le Canada va respecter la règle de droit puis le fait que ça doit procéder devant les tribunaux.
Parce que si on n'a pas de représailles de Washington, on en aura de Pékin.
Nous en avons en ce moment. Pékin a arrêté deux Canadiens. Ils les ont mis en état d'arrestation. Et il n'y a aucun doute que ce soit une réplique à l'arrestation de Mme Meng. Et d'où, justement, le propos, le constat que la Chine se comporte en superpuissance. Quand on les contrarie, ben, ils posent des gestes qui peuvent être assez brutaux. Puis en même temps, ben, on ne peut pas ne pas composer avec la Chine. C'est pas comme si on pouvait ignorer la Chine. On doit trouver, nous, les Canadiens, une approche qui est la nôtre, cependant, pas dictée par Donald Trump puis le monde extérieur, mais qui est la nôtre et qui est le reflet de nos valeurs, mais qui nous permet de travailler avec la Chine comme d'autres pays le feront, parce que on doit absolument faire affaire avec un pays qui va occuper une place prépondérante dans les affaires du monde, qui le fait déjà, mais qui le fera davantage dans les années à venir.
En terminant, M. Charest, le secteur porcin, et ça, vous l'avez dit tout à l'heure dans votre présentation, le secteur porcin canadien et québécois particulièrement pourrait donner exemple à bien d'autres secteurs de l'économie et de l'agroalimentaire pour vraiment profiter de la mondialisation, du multilatéralisme commercial, de l'ouverture de nouveaux marchés.
Le secteur porcin québécois, c'est un exemple de succès dans sa capacité d'aller sur des nouveaux marchés et de le faire dans un environnement qui est très changeant aussi. Là. Ça veut dire qu'il y a des défis, des blocages, mais sur le temps long. Si on retourne au grand sommet, je pense, qui est allé quoi? Qui est en 96, 97, c'est le gouvernement Bouchard à Saint-Hyacinthe où la décision avait été prise de doubler nos exportations jusqu'à aujourd'hui. Sur le temps long, c'est un succès. Maintenant, ce que nous constatons dans les accords de libre-échange, l'Europe est un exemple, c'est que les entreprises québécoises, les petites et moyennes entreprises de tous les secteurs, incluant l'agroalimentaire, n'ont pas réussi à rentrer sur le marché européen, n'ont pas fait l'effort d'y aller. Et là, le secteur porcin québécois, à mon avis, peut donner un exemple de comment on s'organise pour aller vers des nouveaux marchés et réussir à vendre ses produits. On a besoin parce qu'on n'a pas l'habitude. La réalité, c'est qu'on a toujours fait affaire avec notre voisin américain parce que c'était facile. Évidemment, ils sont à côté de chez nous. La langue anglaise, on la connaît. Leur système juridique est familier. Alors là, il nous faut des mentors, il faut des gens qui sont capables de nous apprendre comment aller vers les nouveaux marchés.
Et M. Charest, en vous remerciant, je vous dis, vous êtes toujours très au fait, peut-être encore davantage que lorsque vous étiez premier ministre, de tous les dossiers économiques. Et donc, vous êtes toujours très actif dans le domaine, là, sans révéler qui sont vos clients ou les mandats que vous avez. Vous êtes très actif dans les secteurs économiques.
Je suis conseiller stratégique. J'ai donc des clients, je le disais plus tôt aujourd'hui, j'ai des clients en Chine et j'ai des clients en Afrique, j'ai des clients un peu partout dans le monde. Ma fille aînée habite à Hong Kong. Je suis co-chair du Canada Emirates des Émirats Arabes Unis. Alors, je trouve ça intéressant, c'est fascinant. Il y a des nouveaux marchés pour nous. Et ça me permet d'avoir une lecture, une bonne lecture de ce qui se passe ailleurs, de la perception canadienne, du Canada ailleurs dans le monde aussi. Et le Canada, vous savez, notre réputation, elle est très forte, elle est très bonne. L'enjeu pour nous, c'est qu'on a été beaucoup complaisants sur le plan commercial parce que nous sommes devenus très dépendants des Américains. Et sur le plan de la politique extérieure en général, on n'est pas assez présent. On ne fait pas assez d'efforts sur le plan commercial, puis même sur le plan politique pour être plus présent en Afrique, plus présent au Moyen-Orient, plus présent à des endroits dans le monde où on souhaite notre présence en plus. Alors, souhaitons que sur le plan commercial, qu'il y ait une conscientisation de cette occasion qui se présente pour nous de faire des affaires un peu partout dans le monde.
Monsieur Jean Charest, merci beaucoup pour l'entrevue.
Merci beaucoup, Monsieur Levac.
En terminant, je reviens sur la présentation faite au Port Chaud dans laquelle Jean Charest élaborait sur l'impasse du Canada avec les Américains et les Chinois. Il déplore l'attitude de Donald Trump et ajoute que le président américain joue la corde populiste face à une classe moyenne en décroissance. Partout ailleurs dans le monde, la classe moyenne est en augmentation.
Le seul endroit où il y a une décroissance de la classe moyenne, selon cette projection-là, c'est l'Amérique du Nord. Seul endroit. Alors, pourquoi Trump? Pourquoi Trump? Une partie de la réponse est dans cette projection-là. Parce qu'il y a eu un changement économique en Amérique du Nord, aux États-Unis en particulier, qui a eu un impact très fort sur le discours politique. Et on vit avec ça, je vis avec les conséquences de ça aussi.
Jean Charest montre aussi de l'inquiétude devant le fait que les derniers rapports indiquent que le taux de croissance mondiale a fléchi à 2,9%.
Puis il y a une règle non écrite. Si le PIB mondial est en deçà de 3%, c'est parce que la planète, overall, est probablement en récession.
Ici Lionel Levac. Le portrait de l'économie mondiale est truffé de paradoxes. Un fait est indéniable cependant. Plusieurs indicateurs sont maintenant assez volatiles. À elle seule, la demande des consommateurs, assez soutenue par exemple pour des denrées comme la viande de porc, pourrait-elle empêcher qu'il y ait une récession? Personne ne la veut, personne ne la souhaite, mais pourrait-on l'éviter? Au revoir.